France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Pendant longtemps en Europe, la philosophie indienne a été reléguée du côté de la sagesse, de la spiritualité, du yoga ou encore de la religion, plutôt reconnue comme une pensée philosophique à part entière. Ce n'est pas seulement une affaire de méconnaissance des textes, mais également le produit d'une définition très européenne de la philosophie, construite à partir d'un récit d'origine grecque et d'une séparation stricte entre raison et religion. Or, dès qu'on entre dans les sources et dans leur histoire, apparaît un tout autre monde, avec une pluralité de traditions, de controverses structurantes, une pratique centrale du débat des textes techniques et polémiques. Alors pourquoi cette disqualification a-t-elle été si durable? Quels malentendus l'ont entretenu? Et par ailleurs, qu'appelle-t-on tout simplement la philosophie indienne? Une invitée ce soir pour nous éclairer, Isabelle Ratier, bonsoir.
Bonsoir, Quentin l'a fait.
Vous êtes professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des systèmes des pensées de l'Inde. Vous avez publié le 19 janvier 2023 avec Vincent Elstinger cet ouvrage intitulé « Qu'est-ce que la philosophie indienne ?» aux éditions Gallimard. Et vous avez donné aussi et surtout votre leçon inaugurale au Collège de France le 29 janvier dernier, leçon intitulée « Le vacarme des écritures, penser, croire et philosopher dans l'Inde prémoderne ». Bienvenue au micro de Questions du soir.
Il y a dans l'Europe quelque chose d'un genre unique, que tous les autres groupes humains eux-mêmes ressentent chez nous, et qui est pour eux une incitation à s'européaniser toujours davantage. Alors que nous, si nous avons une bonne compréhension de nous-mêmes, nous ne nous indianiserons par exemple jamais. L'Europe spirituelle possède un lieu de naissance. C'est la nation grecque ancienne au 7e et au 6e siècle avant Jésus-Christ. C'est en elle que se développe une nouvelle sorte d'attitude vis-à-vis du monde ambiant. Les Grecs l'appelaient philosophie. Nous possédons aujourd'hui une quantité de travaux sur les philosophies indiennes, chinoises, etc. Travaux dans lesquels ces philosophies sont mises au même rang que la philosophie grecque. Naturellement, il ne manque point là de quelque chose de commun. Il ne faut pourtant point laisser une généralité simplement morphologique recouvrir les profondeurs intentionnelles, et il ne faut pas devenir aveugle aux différences principielles les plus essentielles de toutes. Pour comprendre plus profondément la science gréco-européenne, en langage universel, la philosophie, dans ce qui la sépare principiellement des philosophies orientales auxquelles on accorde généralement le même rang, il est nécessaire de considérer de plus près l'attitude pratico-universelle en tant qu'attitude religieuse mythique. C'est une erreur que de vouloir parler déjà de philosophie et de science indienne et chinoise.
Vous allez tout nous expliquer, Isabelle Ratier. C'était l'extrait d'un texte du philosophe autrichien puis prussien Edmund Husserl. Qu'est-ce que ce texte raconte? Que dit-il du dédain occidental à l'égard de la philosophie indienne?
C'est un texte qui est terrible parce que, vous l'avez entendu, il trace une frontière rigide et glaçante entre ce qu'il appelle l'humanité européenne, qui est capable de s'élever à un raisonnement de pure théorie, c'est-à-dire un raisonnement qui se place sur le plan du pur savoir pour le savoir, et puis le reste de l'humanité qui, elle, n'est capable que d'une pensée mythico-pratique, c'est-à-dire qui va procéder en s'appuyant sur le mythe, ou alors qui va procéder en s'appuyant sur la raison, mais une raison toujours asservie, toujours rivée au désir d'assouvir certains besoins pratiques. Et donc, il va exclure la philosophie, en particulier indienne et chinoise, du champ philosophique pour ce motif. Et de ce point de vue-là, c'est un texte qui est terrible. En même temps, il faut aussi garder à l'esprit son contexte, parce que Husserl écrit ce texte en 1935, 1945, alors que l'Europe est en train de s'effondrer sous le poids du nazisme et du fascisme. Husserl n'a déjà plus le droit d'enseigner la philosophie en Allemagne. Il est persécuté, ainsi que sa famille, à cause de ses origines juives. Et pour lui, essayer de convaincre l'Europe que cet idéal rationaliste et universaliste qu'est la philosophie grecque, c'est l'essence de l'Europe, c'est son salut et son destin, c'est une sorte de tentative désespérée et qu'on peut trouver admirable par certains aspects, mais qui va catastrophiquement interdire aux pensées extra-européennes le statut de philosophie.
Et dans le même temps, Isabelle Ratier, ce que ce texte encapsule, c'est une certaine conception, une certaine définition même de la philosophie fondée sur la Grèce antique pour point de départ et sur la scission nette, claire, intangible presque entre la religion d'un côté et la pensée rationnelle de l'autre.
Absolument, et entre la théorie et la pratique, alors que c'est une définition qui est certainement réductrice et injuste aussi bien en réalité pour la pensée occidentale et pour la philosophie occidentale que pour la philosophie indienne, parce qu'on sait bien qu'en réalité, les Grecs, s'ils étaient les champions de la théorie, ne se lançaient dans la philosophie que parce qu'ils avaient, ils avaient en tête une dimension sotériologique, un besoin de salut, un besoin de se libérer, une vocation émancipatrice, et de même en Inde.
Alors lançons-nous avec vous dans plusieurs exercices de définition. Le premier, c'est peut-être d'ailleurs le plus important, si l'on tente d'élargir ce que dit Husserl et d'élargir la définition qu'il donnait lui-même de la philosophie. Si l'on tente de comprendre ce qu'est la philosophie indienne, il faut d'abord et avant tout se demander même ce qu'est la philosophie. Comment élargir la fenêtre husserlienne?
Alors, c'est d'autant plus difficile qu'en Occident même, il n'y a pas de consensus quant à ce que serait la philosophie, dans la mesure où chaque philosophe occidental, finalement, a proposé sa propre définition de son activité philosophique. Il y a quand même un dénominateur commun qui est en gros que la philosophie, c'est d'abord un discours, alors ça n'est pas qu'un discours, mais c'est quand même d'abord et avant tout un discours, et un discours qui porte sur la totalité de l'existence et qui procède en s'appuyant exclusivement sur l'expérience commune, l'expérience que tout le monde peut faire, et sur la raison. Et si on définit la philosophie ainsi, alors il y a de la philosophie en Inde, c'est indéniable. En même temps, ça n'est pas évident de la reconnaître immédiatement, parce que ce qui saute aux yeux quand on se tourne vers l'Inde ancienne et médiévale, c'est plutôt une sorte de profusion des traditions religieuses, avec des croyances, des rites, des dogmes, des écritures, c'est-à-dire des textes sacrés différents les uns des autres. Et donc c'est plutôt une sorte d'effervescence religieuse qui paraît caractériser cette Inde prémoderne. Mais en fait, paradoxalement, la philosophie indienne est née de cette effervescence religieuse, parce que ces différents courants religieux ont dû rapidement entrer en compétition les uns avec les autres, parce que la religion, c'est aussi quelque chose qui vit dans une société, et ces mouvements religieux avaient besoin de recevoir la protection et le soutien de patrons, oui. De puissants patrons et donc de séduire les dignitaires et les rois des cours royales. Pourquoi ? Parce que tel mouvement religieux avait besoin d'obtenir un terrain exempt de taxes pour pouvoir y construire un temple ou un monastère, etc. Et donc, dans cette compétition intense, ces différents mouvements religieux ont dû entrer en contact les uns avec les autres pour participer à des disputes publiques dans lesquelles ils se sont efforcés de démontrer la supériorité de leurs dogmes. Mais pour ce faire, il fallait bien qu'ils mettent de côté l'autorité de leurs textes sacrés, parce que ce que certains considéraient comme des textes sacrés n'était pas reconnu comme sacré par les autres. Et donc, ils ont dû mettre entre parenthèses l'autorité de leurs écritures et ne s'appuyer que sur des arguments fondés sur la perception, sur l'expérience commune et sur la raison. Et c'est dans cet espace-là que s'est ouvert la possibilité d'un discours où la raison a pu se déployer de manière autonome.
Je fais un pas en arrière quand même, Isabelle Ratier. Est-ce que cela a du sens, et d'ailleurs le titre de l'ouvrage que vous avez coécrit, est-ce que cela a du sens de parler de philosophie indienne au singulier ? On aurait du mal aujourd'hui à parler de philosophie occidentale sans pluriel, par exemple.
Alors, je dirais que oui et non. C'est-à-dire que si on emploie le terme philosophie au singulier, on parle là de manière parfaitement générique de cette pratique du discours qui ne va s'interdire aucun objet et qui va prétendre couvrir la totalité de l'existence humaine, ses limites, son au-delà, mais qui va prétendre aussi procéder en mettant de côté tout présupposé, toute croyance, tout dogme, toute autorité scripturaire, etc. Ce qui n'empêche qu'il y a des systèmes philosophiques, évidemment, au pluriel, aussi bien en Occident qu'en Inde, et que la philosophie, d'un certain point de vue, ne se conçoit qu'au pluriel, vous avez raison.
Il y a une idée forte ancrée, une fausse idée même, qu'il faut peut-être déconstruire tout de suite dans cette discussion, idée selon laquelle la philosophie indienne serait réduite à une forme de spiritualité, au fond. Pourquoi est-ce une fausse idée ?
Alors, c'est une idée qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui encore, y compris dans les histoires de la philosophie, les manuels pour classe terminale de philosophie, etc. Pourquoi est-ce une idée, en tout cas, gênante? Parce que, au fond, elle est l'héritière directe de ce que disait Husserl tout à l'heure, à savoir, elle correspond à cette idée que, en Inde, l'exercice de la raison doit toujours se plier finalement à des buts pratiques et à cette idée que finalement il ne peut pas y avoir d'usage de la raison qui ne soit pas appliqué à ces buts-là, comme si toute recherche sotériologique, c'est-à-dire toute aspiration à une forme de salut ou à une forme de libération, était finalement confinée aux pensées extra-européennes, alors que l'Europe, elle, s'en serait dégagée. Et non, ce n'est pas vrai. Il y a une vraie conceptualité dans l'Inde ancienne et médiévale. Et bien sûr, il y a toujours un horizon sotériologique, il y a toujours une envie de s'émanciper de quelque chose, mais c'est le cas aussi en Europe. Et je dirais, jusque de Platon jusqu'à Wittgenstein, et en fait jusqu'aux philosophes analytiques contemporains, même si chez Wittgenstein ou les philosophes analytiques d'aujourd'hui, on cherche à se libérer, par exemple, des pièges du langage en travaillant des problèmes de logique. Mais il y a toujours cette idée qu'il faut se libérer de quelque chose, même si on n'est pas d'accord sur ce dont il faut se libérer et sur la manière dont on doit le faire.
En miroir, Isabelle Ratier, pourquoi existe-t-il par ailleurs chez beaucoup de philosophes indiens une méfiance presque viscérale, presque constitutive, une méfiance à l'égard du langage et de la pensée discursive? Ça vous fait rire?
Oui, c'est très juste et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles depuis l'Occident, on s'est méfié de la philosophie indienne et on a voulu ne voir en elle qu'une forme de mysticisme en réalité. Il est vrai que les philosophes indiens se sont beaucoup méfiés des mots parce qu'ils ont soupçonné que quand nous comprenons nous-mêmes comme des sujets qui sommes face à des objets ou lorsque nous considérons le monde comme constitué par une diversité de substances possédant des qualités diverses, eh bien en fait, selon les philosophes indiens, c'est surtout parce que nous projetons sur la réalité des catégories qui sont en fait des catégories de langage, des catégories grammaticales, par exemple celle du sujet par opposition à celle de l'objet, celle du substantif par opposition à celle de l'adjectif. Et donc les philosophes indiens se sont inquiétés de la pensée discursive, c'est-à-dire la pensée qui s'exprime dans les mots, parce que ils ont soupçonné qu'elle nous masque en fait la réalité telle que elle se donne à nous dans la sensation pure, parce que lorsque nous sommes en train de sentir et non pas en train de parler, nous sommes en train d'éprouver une réalité qui est parfaitement singulière, à nul autre pareil, parfaitement unique, parfaitement instantanée aussi, elle ne dure pas, et donc elle est indicible, cette réalité. On ne peut pas la dire parce que les mots sont toujours trop généraux pour exprimer cette pure singularité. Donc beaucoup de philosophes indiens ont essayé d'arriver à une forme d'intuition silencieuse qui est en quelque sorte au-delà du langage, mais il ne faut pas croire pour autant que l'Inde, ça n'est que cette espèce de mysticisme silencieux. D'abord parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui se sont moqués en Inde des prétentions de ceux qui pratiquent le yoga ou des disciplines ascétiques et qui prétendent en retirer des perceptions extrasensorielles, des intuitions que le commun des mortels n'aurait pas. Et puis aussi parce que beaucoup de philosophes indiens qui ont cherché à se libérer des pièges du langage ont considéré qu'on peut le faire justement dans la pratique discursive du dialogue philosophique.
Ce que vous relatez par ailleurs extrêmement bien dans cette leçon inaugurale, c'est que la philosophie indienne est un espace traversé de conflits nombreux, de traditions qui s'opposent, et que c'est cette opposition justement qui fait à la fois la richesse et la fécondité de la pensée philosophique indienne.
Absolument, c'est cette diversité de mouvements religieux, donc des mouvements religieux bouddhiques, parce que le bouddhisme évidemment est né sur le sous-continent indien, mais aussi des mouvements religieux jain, le jainisme est une religion ancienne de l'Inde et qui existe encore aujourd'hui en Inde, et puis toute une multitude de mouvements qu'aujourd'hui on appellerait hindous, même si l'hindouisme comme religion unique n'existe pas encore comme une unité organique dans l'Inde ancienne et médiévale, mais on a toute une multitude de mouvements qui sont en rivalité les uns avec les autres. Et c'est cette rivalité, ces vues incompatibles, mais qu'il va bien falloir confronter dans la dispute publique, qui vont donner à la philosophie indienne toute sa richesse et toute sa diversité.
Ouais. Est-ce que cela a du sens de parler d'objets et de concepts, d'importer ou peut-être d'utiliser justement ces deux termes pour aborder, pour approcher la philosophie indienne? Est-ce que la philosophie indienne parle de sujets, de désirs, de raisons, de Dieu et de ces sujets-là que l'on traite notamment dans la philosophie occidentale?
Alors moi, je pense que il est très frappant qu'en Inde comme en Occident, au fond, les philosophes se soient appropriés très souvent les mêmes objets. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a des thèmes qui sont universels. Il y a des questions que les êtres humains se posent, d'où qu'ils soient, et quelle que soit l'époque à laquelle ils vivent, sur un certain nombre de grands thèmes universels, effectivement. Est-ce qu'il y a un Dieu créateur? Qu'est-ce que c'est que l'espace? Qu'est-ce que c'est que le temps? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Est-ce que le monde existe de manière parfaitement indépendante des consciences qui le perçoivent, etc. Donc je pense qu'il y a, de ce point de vue, une véritable universalité.
Alors, si les concepts sont les mêmes, est-ce que les objets qui en découlent, eux, sont similaires, peuvent être approchés, frottés même entre les deux grands cadres de la philosophie que vous décrivez?
Alors je dirais que les objets sont les mêmes, au sens où les grands thèmes, les grandes notions sont les mêmes, mais on n'a pas eu tout à fait la même manière en Inde et en Occident de formuler les questions à leur sujet, et du coup on n'a pas élaboré des concepts tout à fait identiques en Inde et en Occident, oui. Ça, c'est certain.
Existe-t-il, là aussi, je prolonge la comparaison entre la philosophie occidentale et la philosophie indienne, existe-t-il en Inde des écoles, des traditions de pensée? Comment se forment les différents courants qui traversent cette philosophie?
Alors, c'est une belle et rude question. Je crois qu'il va me falloir à peu près tout le reste de ma carrière au Collège de France pour y répondre.
Je vous laisserai un peu moins de temps ici.
Non, cette diversité, elle prend d'abord sa source dans la diversité des courants religieux et les identités
encore
religieuses, oui. Et les identités religieuses en Inde se cristallisent d'abord autour d'écritures, c'est-à-dire de textes qui sont considérés comme sacrés, qui sont considérés comme faisant autorité par principe dans certaines communautés, simplement parce qu'on considère qu'il constitue une forme de révélation. Donc, on a des mouvements religieux au sens où ces traditions religieuses se définissent autour de ces textes, ces différents textes sacrés. Mais ces mouvements religieux, en se rencontrant les uns les autres, en entrant en rivalité, vont aussi se scinder, se multiplier. On va avoir des, par exemple, au sein du bouddhisme, qui est l'une des grandes religions du monde, on va avoir des systèmes philosophiques extraordinairement variés et qui, en fait, vont soutenir des positions parfaitement opposées sur toutes les grandes questions métaphysiques, sur la manière dont le réel se constitue, sur la réalité ou l'irréalité du monde perçu. Enfin, au fond, sur les choses qui peuvent paraître les plus importantes, on va avoir des systèmes philosophiques très différents. Mais au fond, on peut dire la même chose des systèmes philosophiques en Occident qui ont été produits par des philosophes qui étaient chrétiens. Entre Descartes et Kant, qui étaient tous deux chrétiens, on a des systèmes extraordinairement différents et chacun d'une grande richesse qui lui est propre. Et le christianisme ne suffit pas à définir ces systèmes. Eh bien, il en va de même pour les systèmes philosophiques bouddhiques qui débordent en quelque sorte sortent de leur bouddhisme.
Je voudrais que l'on prenne, Isabelle Ratier, quelques illustrations de ce que la philosophie indienne produit, et notamment mettre la lumière sur une querelle en particulier, la querelle du soi, qui est l'une des grandes controverses de la philosophie indienne. Est-ce que vous pourriez nous la raconter d'abord et ensuite expliquer justement en quoi elle raconte aussi ce que la philosophie indienne est capable de produire comme concept et comme controverse, justement?
Alors, vous avez raison, c'est l'une des grandes controverses qui ont façonné l'histoire intellectuelle et religieuse de l'Inde. Et presque toutes les grandes traditions philosophiques indiennes y ont pris part, d'une manière ou d'une autre. Et elle est intéressante parce qu'elle montre bien la dimension sotériologique de la philosophie indienne, c'est-à-dire qu'il y a toujours un enjeu qui est comment se libère-t-on, et en particulier comment se libère-t-on de la douleur existentielle, de la douleur qui est inhérente à l'existence humaine. Et de ce point de vue-là, il y a une ligne de partage très claire entre la plupart des mouvements indiens qui vont considérer que la racine de la douleur existentielle, c'est le fait que nous confondons ce qui dure en nous réellement, notre essence permanente qui constitue notre identité, qui assure notre identité, qui fait que nous restons nous-mêmes.
La continuité du moi, on pourrait dire ?
Quelque chose comme ça, oui, avec des éléments extrinsèques, adventices, extérieurs en réalité à nous-mêmes. Par exemple, nous nous identifions à notre corps, alors que notre corps ne cesse de se transformer, mais aussi à nos affects, alors qu'ils ne cessent de changer, à notre intellect, alors que lui aussi est sujet à la dégradation, etc. Et donc, du point de vue de la plupart des traditions religieuses indiennes, pour se libérer de la douleur, il faut apprendre à discerner ce qui constitue en quelque sorte le noyau de notre être et qui est capable, à cause de sa permanence, de résister à la mort même, et puis tout le reste. Mais de ce point de vue, le bouddhisme va s'opposer de manière assez radicale à toutes ces traditions en disant « mais non, l'origine de la douleur, ça n'est pas une confusion entre ce que nous sommes vraiment et qui dure en nous et puis ce qui ne dure pas, c'est bien plutôt notre croyance même en la persistance de quelque chose en nous, parce qu'en fait, rien ne dure, et certainement pas ce moi, ce je que nous prenons pour quelque chose qui est capable d'assurer notre identité, y compris par-delà la mort. Et donc, du point de vue bouddhique, il faut se libérer de cette illusion du soi.
Je me dis, Isabelle Ratier, en vous écoutant, que Montaigne aurait pu prendre part à cette controverse. Lui aussi a réfléchi à l'immuabilité du soi, aux continuités qui nous traversent dans le temps, à ce que le monde exogène fait aussi, à ce que nous sommes profondément.
Absolument, mais vous avez tout à fait raison. De même, David Hume ou Friedrich Nietzsche et bien d'autres auraient été tout à fait intéressés par cette discussion. Et d'une manière paradoxale et un peu tragique d'ailleurs, en réalité, Husserl aurait été passionné par cette discussion parce que Husserl était un grand phénoménologue, donc un de ces philosophes européens qui s'intéresse à la conscience et qui pense que pour comprendre le monde, il faut d'abord revenir sur l'analyse de nos états de conscience. Or, cette querelle du soi, elle s'est très vite placée sur le terrain de l'analyse de la conscience. Et en fait, il y a dans la philosophie indienne une profonde dimension phénoménologique de ce point de vue-là. Il y a vraiment une attention soutenue et systématique au phénomène de conscience. Pourquoi ? Parce que les partisans du soi ont pensé, comme vous le suggériez, que ce qui dure en nous, c'est justement ce qui en nous était conscient il y a 20 ans, était conscient ce matin et sera, du moins on l'espère, conscient demain matin. Alors, les bouddhistes, de leur côté, se sont aussi placés sur ce terrain de la conscience en essayant de montrer qu'en fait, ce que nous prenons pour la conscience, comme si c'était une sorte de substance comme ça, permanente, une chose pourvue d'une véritable permanence, en réalité, ça n'est qu'une série d'événements instantanés, d'événements cognitifs qui sont tous différents les uns des autres. Vous me posez une question, mais à l'instant qui suit, vous vous souvenez que vous avez oublié de nourrir votre chat et vous pensez est-ce que au dîner de ce soir, etc. Et chacune de ces pensées est un événement sans durée qui va succéder au précédent sans intervalle, ce qui nous donne l'illusion d'une continuité, mais en réalité, quand un l'a fait, vous changez à chaque instant, disent les bouddhistes, et toute altération est une altérité, c'est-à-dire que vous devenez quelqu'un d'autre à chaque instant du temps. Et donc, les uns et les autres vont s'efforcer d'analyser les états de conscience les plus familiers, les plus banals, mais donc aussi les plus mystérieux, au fond, la conscience désirante, l'intentionnalité, le fait que notre conscience est toujours conscience de quelque chose, la perception, la conceptualisation, etc.
Quelle sera la suite de votre programme au Collège de France ? La leçon inaugurale a été donnée. Si l'on souhaite vous suivre, vous écouter, quels seront les prochains chapitres de...
Alors, cette année, justement, est consacrée à la querelle sur le soi, parce que je trouve que c'est une bonne introduction à toute cette richesse philosophique. Et puis, l'année prochaine, je ne sais pas encore, j'y réfléchis. Mais pour l'instant, on s'avance dans cette question de la querelle sur le soi.
Merci beaucoup, Isabelle Ratier. Vous êtes professeure au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des systèmes de pensée de l'Inde. Votre leçon inaugurale est disponible sur le site du Collège de France. Son titre est superbe par ailleurs, donc je le redonne, le vacarme des écritures, penser, croire et philosopher dans l'Inde prémoderne. Merci d'être venu au micro de France Culture. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rudy Ecken, Bruno Barada, Bertie Bourdon à la réalisation. Ce soir, François Richer.